J'aimerais que nous lisions ensemble ce matin un passage de la lettre aux Hébreux. Je trouve que ce matin, enfin, le Seigneur l'a toujours fait, conduit toutes choses, mais aujourd'hui particulièrement, il y a une concordance dans le déroulement de ce culte, les chants, la présidence, et puis aussi, d'une certaine manière, le message de la lettre aux Hébreux. On va retrouver les mêmes thèmes, la lumière, l'assurance et puis la persévérance. Donc Hébreux 10, versets 32 à 36. Hébreux 10, 32, 36. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir reçu la lumière, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances, d'une part exposé comme un spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez dans les cieux des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, d'endurance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Les deux autres versets parlent de s'accrocher et de ne pas laisser tomber et d'attendre, même si le temps paraît long, mais celui qui a promis de venir viendra sûrement encore un peu de temps. Nous avons besoin d'endurance pour accomplir la volonté de Dieu. Derrière ces recommandations, frères et sœurs, ces recommandations qui nous sont adressées, il y a tout un comportement, toute une posture, dirais-je, que nous sommes appelés à adopter. En pratique, ce passage de la lettre aux Hébreux nous encourage très fortement à coordonner notre espérance et notre foi. Autrement dit, après avoir accueilli les promesses de Dieu avec foi, nous devons, dans la foulée, si j'ose dire, nous attacher à leur accomplissement en manifestant une ferme attente. Or, cette attente, outre qu'elle soit souvent longue, rencontre parfois bien des difficultés, bien des obstacles ou des oppositions. Le texte de ce jour tient compte d'une telle tension et nous encourage à tenir bon. Nous retiendrons trois exhortations majeures sur lesquelles se fonde le réconfort qui nous est promis dans ce passage. Pour nous affermir dans l'attente de l'objet de notre foi et de notre espérance, il nous est recommandé premièrement de nous souvenir de nos débuts dans la foi. Deuxièmement, de ne pas abandonner notre assurance. Et troisièmement, de renforcer notre endurance, notre persévérance. Premièrement, souvenons-nous de nos débuts. En premier lieu, donc, est mentionnée la nécessité pour tout croyant de se souvenir de ses débuts dans la foi. Il ne s'agit pas de nous laisser gagner par la nostalgie. L'important ici, c'est de nous rappeler les éléments fondateurs de notre vie chrétienne, d'en vérifier la solidité afin de poursuivre notre route avec une assurance renouvelée, afin d'obtenir ce qui est promis. En effet, quelques-uns des destinataires de cette lettre se trouvaient en grande difficulté, proches d'un effondrement spirituel. Ils étaient tentés de regarder en arrière après avoir mis la main à la charrue. Ces menaces peuvent surgir à toutes les époques sous des formes variées. La question qui se pose alors est celle-ci. Que deviennent les promesses de Dieu face aux incidents et aux tourments quotidiens que nous pouvons connaître? En préparant ce message, il m'est venu à l'esprit une anecdote parue dans un calendrier évangélique il y a quelques années. Je ne vais pas vous la rapporter mot à mot, mais en substance. C'est l'histoire d'une maman très souvent accablée par toutes sortes de préoccupations. Mais un soir, elle rentre d'une réunion, le visage rayonnant. Son gamin, remarquant cette transformation, lui demande les raisons de sa joie. Elle lui répond avec enthousiasme qu'elle venait de découvrir dans la Bible un beau verset avec une belle promesse, une promesse formidable. Et de fait, pendant plusieurs jours, cette maman était comme sur son petit nuage. Mais voilà qu'un soir, en rentrant du travail, elle était dans un état désespéré. Cela n'a pas échappé au gamin qui l'interroge : que se passe-t-il, maman ? Ton verset a-t-il changé ? Bonne question, dirions-nous. Mais il y a mieux que cette question. D'une certaine manière, les propos de cet enfant invitaient sa maman à se souvenir de ses premiers moments où elle avait été éclairée, où elle avait reçu la lumière. Car ce beau verset avec sa promesse formidable semblait tomber dans l'oubli. Oui, l'oubli. Un simple oubli, particulièrement dans le domaine spirituel, peut entraîner bien des malheurs. On connaît l'histoire d'Israël qui témoigne de ses oublis. Il y a un psaume en particulier, le psaume 78, qui parle de tout cela. Bientôt, ils oublièrent les œuvres de Dieu. Ils chantaient des cantiques, mais après, ils oublient. Je vous convie donc à m'accompagner dans l'évocation de ces éléments fondateurs qui ont contribué à façonner les débuts de la vie chrétienne de ces croyants dont il parle. Prêtons attention à cet inventaire que je vais faire, car les faits qui sont rapportés sont sobres. Mais à travers la sobriété du récit, nous découvrons prioritairement l'action de Dieu, la manifestation de sa grâce. En effet, le texte commence par nous dire simplement que ces croyants ont été éclairés, qu'ils avaient reçu la lumière. Souvenez-vous de ces premiers jours où vous avez été éclairés, où vous avez reçu la lumière. C'est dire que dès le départ, le Seigneur est à l'œuvre dans leur existence. Il est à l'origine de leur conversion. C'est lui qui les a fait passer des ténèbres à la lumière. Il est lui-même cette lumière qui est venue dans notre monde, comme on l'a dit tout à l'heure et chanté. Et l'évangile de Jean proclame cela à plusieurs reprises. Mais comprenons en même temps que cette lumière, cette réception de la lumière est aussi un passage de la mort à la vie, car cette lumière est la lumière de la vie. En outre, je remarque que cette action initiale de Dieu est pleine de conséquences pour ses croyants qui avaient été illuminés. En effet, désormais, ils sont liés à une personne vivante, le Seigneur, mais aussi à toute une communauté, à son peuple. Puisqu'il nous a dit, ils ont été solidaires de ceux qui souffraient, de ceux qui étaient persécutés. Ce qui est encore précieux, c'est le fait qu'une telle relation donne sens à toute situation plus ou moins compliquée. La relation au Seigneur et la relation aux autres nous portent et nous sommes motivés par l'amour et orientés par l'espérance. Tout ce qui paraît chaos trouve un sens par cette lumière qui vient du Seigneur et par cet amour et cette espérance que nous apportent les autres et que nous leur apportons. C'est dans les épreuves diverses, combats de la foi, persécution, souffrance, dans tout cela, ils ne sont plus seuls, nous ne sommes plus seuls. D'un côté, le Seigneur est avec nous et avec eux, de l'autre, nous sommes unis et solidaires comme des pierres d'un même édifice, celui de Dieu, la maison de Dieu. Solidaires comme des membres du même corps, celui du Christ Jésus. Voilà donc une réalité spirituelle qui nous ramène à nos propres débuts. Notre conversion n'est pas due à nos efforts. Cela est impossible aux humains. Les humains sont morts dans leurs péchés et asservis aux puissances des ténèbres. Les morts ne prennent aucune décision, incapables de le faire. Tout vient de Dieu, tout est don. L'apôtre Pierre souligne la générosité de Dieu qui donne. Dans sa deuxième lettre, il déclare « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa propre force. » Voilà, tout vient de lui, dès l'origine, et il est à l'œuvre. En outre, cette générosité de Dieu qui au départ donne tout, s'accompagne d'une fidélité. Le fait que Dieu soit à l'œuvre dès le début consolide notre espérance, car en faisant lui-même éclore la vie en nous, le Seigneur nous donne l'assurance qu'il est capable de nous accompagner jusqu'au bout. C'est ce que dira Paul aux Philippiens, « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. » Et Paul ajoute même, « Je suis persuadé de cela. » Philippiens 1:6. Pour conclure cette première partie, souvenez-vous des événements du début. J'ajouterai que l'inventaire de ces événements du début nous montre que la grâce de Dieu, même enfouie, reste opérante. Cette grâce de Dieu du départ est comme un acompte. Ce sont des gages des biens à venir. Nous voyons et nous devons les considérer comme valables. Comment alors ne pas nous réjouir et exprimer toute notre gratitude en pensant à ces événements du début? Le deuxième encouragement qui nous est donné se manifeste, se présente à nous d'abord sous une forme de mise en garde. Mais cette mise en garde est accompagnée d'une merveilleuse perspective. Il nous est dit, ne perdez donc pas votre assurance, car une récompense y est attachée. Cette récompense est attachée à ceux qui font preuve de hardiesse dans leur témoignage, en parole et en acte. J'ai dit hardiesse, car c'est le mot qui correspond au mot grec traduit par assurance. Hardiesse. Parfois, on emploie d'autres synonymes. Audace ou même fierté. Cependant, cela n'a rien à voir avec un comportement charnel inspiré par l'orgueil. Cela doit être considéré comme une attitude venant de l'action de l'Esprit-Saint. Oui, il convient de préciser que ces diverses manifestations, assurance, fierté, hardiesse, viennent de l'Esprit. C'est pourquoi ces manifestations sont aussi accompagnées de la joie, de l'enthousiasme. Nous avons un premier exemple dans l'évangile de Luc, lors de l'annonce faite à la mère de Jésus. Et la mère de Jésus, pleine d'assurance, se mit à dire « Mon âme exalte le Seigneur, j'exulte en mon Dieu ». L'assurance produit cette exultation, cette allégresse, parce qu'elle est bien fondée. Cette assurance, c'est une grande persuasion qui nous est communiquée par l'Esprit. Voyez les apôtres après la crucifixion de Jésus-Christ. Ils étaient timorés, ils étaient dans la peur, enfermés. Mais après la Pentecôte, il nous a dit que ces apôtres rendaient avec force témoignage à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Ni les menaces verbales, ni les violences physiques de la part des membres du Sanhédrin ne leur feront changer d'avis. Ils étaient remplis d'assurance. Ajoutons encore que l'assurance, fruit de l'esprit, est d'une certaine manière le produit de la foi et de l'espérance, de la confiance et de l'espérance. C'est ce que nous apprend la conduite d'Abraham lorsqu'il reçoit la promesse divine. La lettre aux Hébreux, aux Romains, au chapitre 4, exprime en termes particulièrement édifiants l'interaction de la foi et de l'espérance dans l'assurance d'Abraham. Observons cela. Tout d'abord, la confiance d'Abraham, dans Romains 4. La confiance d'Abraham est placée en Dieu. Le texte dit, Abraham eut foi en Dieu et cela fut compté comme justice. En quelque sorte, pour le patriarche, si la parole qu'il vient d'entendre est digne de confiance, c'est parce que celui qui la proclame est quelqu'un de crédible. Donc, ce n'est pas tellement la parole en elle-même, j'allais dire, qui fait mouche, mais c'est la personne qui l'a dit. Abraham regarde d'abord à celui qui est venu à lui, le considérant assez honnête et véridique pour tenir parole, et choisit ensuite d'entrer, entre guillemets, dans son jeu. Alors, considérant que cette personne est fiable, Abraham prend le risque de remettre son avenir entre ses mains. En toute assurance, il ira où il le conduira, il fera ce qu'il lui ordonnera. C'est là la confiance d'Abraham qui l'amène à une certaine assurance dans son comportement. Deuxièmement, l'espérance d'Abraham fait aussi partie de l'assurance. Parce que cette espérance est un pilier de cette assurance. Que constatons-nous? Cette fois, le patriarche Abraham confronte une épreuve de taille, car il est bien obligé de se rendre compte que son corps est usé, et celui de Sarah aussi. Leur âge avancé ne leur laisse aucun espoir d'avoir des enfants. Comment va-t-il réagir? L'apôtre souligne le comportement d'Abraham de cette façon. Abraham n'a pas oublié les débuts de son parcours spirituel. Il se souvient de sa rencontre avec Dieu. Il se souvient de l'annonce qui lui a été faite. Le texte nous dit qu'Abraham reste dressé, campé devant celui auquel il a cru. Et ensuite, il est resté devant la promesse. Il attend, sans fléchir. Fermement établi dans cette position, il entreprend plusieurs opérations de grande importance. Les versets 4, 18 à 20 nous disent « Il espère contre toute espérance. Il ne faiblit pas dans la foi. » Verset 19. « Il ne succombe pas au doute. Il fut fortifié par la foi. Il rendit gloire à Dieu et parvint ainsi à la pleine conviction que Dieu avait la puissance d'accomplir ce qu'il a promis. » Voilà tout ce que l'espérance d'Abraham lui a permis de réaliser. Abraham a mis dans la balance ce qui est visible, son corps usé, et ce qui est invisible, la parole de Dieu. Et par la foi, il a opté pour la promesse divine et en espérance, il a manifesté sa gratitude à Dieu. L'assurance du patriarche s'est révélée bien ancrée, si bien que l'Évangile, si bien que l'Écriture déclare, Abraham, ayant persévéré, vit se réaliser la promesse. L'espérance jointe à la confiance produise l'assurance. Mais c'est une étape du début. Et à la suite, la lettre nous dit, nous avons besoin d'endurance. C'est d'endurance que nous avons besoin. Le texte dit que vous avez besoin, mais je préfère dire nous, parce que je me mets aussi dans cette même catégorie de croyants. Et je dirais même en toute vérité, me concernant particulièrement, plus j'avance en âge, plus j'éprouve le besoin de renforcer mon endurance, car la fragilité du corps se fait ressentir très fortement. Et souvent, comme le disait les psaumes, j'ai dit au Seigneur, viens vite à mon secours, je suis à bout de souffle. Oui, le corps s'use. Et c'est pourquoi je dirais que mon beau verset à moi, comme pour cette dame dont nous avons parlé au début, mon beau verset à moi, c'est celui-ci. Ma grâce te suffit. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma puissance donne toute sa mesure dans l'infirmité. C'est mon beau verset. Mais revenons à ce mot d'endurance. Que signifie-t-il dans cette lettre de façon particulière? Généralement, quand on parle d'endurance, il y a en arrière-plan l'idée de supporter des situations difficiles sans se décourager. C'est pourquoi on utilise parfois des synonymes comme constance, persévérance, supporter des situations difficiles sans se décourager. C'est dire qu'on ne peut pas parler d'endurance sans parler d'épreuve. Et dans cette lettre même, cette lettre aux Hébreux, il nous a dit concernant certains croyants qu'après leur conversion, ils avaient enduré un grand combat. Ils avaient donc fait preuve d'une certaine endurance. Et cependant, il est dit ici qu'ils avaient encore besoin d'endurance. De quelle endurance s'agit-il? Une endurance soutenue et prolongée, car l'épreuve continue sous une forme ou sous une autre jusqu'à l'accomplissement de la promesse. Au début, on croit tout avoir, et c'est vrai, en germe, on a tout. Mais il faut que cela se développe et qu'il faut que cela arrive à son accomplissement, à son épanouissement. Effectivement, l'épreuve continue puisqu'au chapitre 12, la lettre nous dit de courir avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. À travers cette recommandation, nous apercevons quelques particularités dans l'épreuve pour laquelle l'endurance est nécessaire. Première particularité, cette épreuve est présentée comme un parcours imposé, comme une sorte de discipline sportive. Ensuite, toujours concernant cette épreuve, Jésus nous est donné comme modèle d'endurance. Nous devons avoir les regards fixés sur lui. Mais ce que nous constatons aussi, c'est qu'avec Jésus, l'épreuve n'est plus une course. L'épreuve est un combat, un rude combat, puisqu'il nous est dit par deux fois, Jésus a enduré la croix, il a enduré de la part des pécheurs une grande opposition, afin que nous ne nous lassions pas l'âme découragée. L'épreuve continue. Une course imposée, mais en même temps, une lutte acharnée qui demande de la souffrance. Pas seulement du souffle. Mais ce qui est encore intéressant concernant Jésus, notre modèle, c'est qu'avec lui, cette épreuve qui était imposée, comme je le disais, comme il est écrit, cette épreuve imposée devient une épreuve choisie. Jésus choisit, c'est volontairement qu'il accepte. Puisque c'est cette lettre aux Hébreux qui nous dit, le Christ en entrant dans le monde dit, « Me voici, je viens pour faire ta volonté. » Il vient pour la croix, dès le départ. Il renonce à la joie du monde. Il méprise la honte liée à la crucifixion. Et il accueille la volonté de Dieu. C'est à ce Jésus-là que nous devons sans cesse regarder pour considérer son endurance. Oui, nous avons besoin d'endurance, de l'endurance du Christ lui-même. l'endurance ne se conçoit pas en dehors de renoncement et de souffrance. Elle est un temps nécessaire pour atteindre la plénitude. Le temps d'épreuve est toujours un temps de révélation, chers frères et sœurs. Révélation. Un temps qui nous permet de reconnaître qui nous sommes vraiment, qui nous prétendons être, ce que nous prétendons accomplir. C'est l'épreuve qui manifeste, qui révèle tout cela. L'apôtre Paul n'a-t-il pas dit à Timothée, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un ouvrier éprouvé. » Le Christ a été éprouvé, il l'a accepté, il est allé jusqu'au bout. Mais quel a été son secret, entre guillemets, pour tenir jusqu'au bout ? Face à des oppositions, face à des persécutions, des insultes, à la honte, comment a-t-il pu tenir ? Je vous invite à lire quelques versets dans Ésaïe 42 qui nous parle du serviteur de Dieu, le serviteur souffrant. Parce que dans le livre d'Ésaïe, il y a plusieurs passages qui parlent du serviteur jusqu'au chapitre 53. Mais au chapitre 42, il est dit « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix et ne les fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Il va jusqu'au bout parce que au départ, son père est son soutien. Voici mon serviteur que je soutiens. Et dans les psaumes, à plusieurs reprises, il est parlé du Messie, l'homme qui est à la droite de Dieu, mais avec cette précision, l'homme que tu as rendu fort. Dieu a rendu le Christ fort, son Fils fort, l'homme de sa droite. C'est pour cela qu'il a pu tenir, qu'il a manifesté une endurance jusqu'au bout. Il a été soutenu par le Père. Et le psaume 110, qui parle « Assieds-toi à ma droite », se termine par cette affirmation. « En chemin, il boit au torrent. Voilà pourquoi il relève la tête. » Donc sans cesse, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, a été ressourcé en son Père, par son Père, qui le soutenait. Eh bien, frères et sœurs, pour nous, il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre voie pour obtenir cette endurance dont nous avons besoin. C'est de demeurer dans cette communion avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et cette lettre encore nous dit, approchez-vous de lui, du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et la grâce opportune, dans le temps opportun. Hébreux 5, 16. Oui, buvons au torrent pendant la marche, parce que l'épreuve continue, mais le ressourcement doit être régulier. Que le Seigneur nous montre ce chemin d'une manière intime et pratique, et non pas seulement en parole et en imagination. Il est capable de le faire puisqu'il nous a donné tout ce qui contribue à la foi, à la vie et à la piété. Il est fidèle. Que ton nom soit béni. Voilà ce que je voulais participer avec vous ce matin. Donc la lumière est là, lumière de la vie, et l'Esprit nous donne la conviction que celui qui nous parle est digne de confiance, donc nous pouvons être pleins d'assurance, mais en même temps, c'est lui qui nous soutient, qui nous donne l'endurance de son Fils jusqu'au bout. Ça ne vient pas de nos efforts, c'est gratuit, mais il faut y aller. Que son nom soit béni. Amen.